Vous êtes sur RTL.
Après, je n'ai plus aucun souvenir. Je me suis réveillée le lendemain dans son lit et nue. Et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il s'était passé, j'étais tellement paniquée, effrayée, honteuse, que j'ai pris mes affaires et j'ai couru jusqu'à la gare du Nord.
Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous de l'heure du crime ce soir. Un financier américain accusé d'un gigantesque scandale sexuel, des victimes qui dénoncent, et puis un Français, ancien patron d'une agence de mannequins, au centre d'une enquête ouverte à Paris. Voici donc le menu de cette heure du crime sur fond de très jeunes filles, d'orgies et de personnalités célèbres. L'affaire Jeffrey Epstein, bien sûr, affaire qui, malgré son suicide en prison en août 2019, est loin d'être terminée aux États-Unis, mais aussi en France, où le parquet de Paris a ouvert depuis un an une enquête préliminaire pour notamment, au pluriel, viol sur mineur et agression sexuelle. C'est cette enquête, ce volet français que nous allons examiner ce soir. Les liens étroits qui unissaient Jeffrey Epstein au français Jean-Luc Brunel, directeur d'agence de mannequins aujourd'hui âgé de 74 ans. Son nom figure dans le répertoire personnel de l'Américain. Brunel a beaucoup voyagé à bord de l'avion privé du financier, appareil qui sera surnommé le Lolita Express. Il a également été l'invité sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes, l'île des pêchés, où auraient été organisées des fêtes sexuelles et même peut-être la détention de filles mineures. Jean-Luc Brunel est accusé par trois femmes, des anciennes mannequins, d'agressions sexuelles en France. Des faits prescrits, Brunel dément. Il n'a pas été entendu par les enquêteurs. Le sera-t-il un jour ? Ou bien le volet français de l'affaire Epstein est-il condamné à être refermé ? C'est ce que nous allons essayer de savoir ce soir avec les invités de l'heure du crime et le témoignage exclusif de l'une des plaignantes qui nous a raconté son histoire. L'affaire Epstein, le réseau français, c'est l'enquête ce soir dans l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, enquête sur un scandale sexuel international à la portée encore imprévisible, l'affaire Epstein et son volet français. Comment la justice de notre pays a-t-elle été amenée à s'intéresser à ce dossier ? C'était il y a un peu plus d'un an. Ce samedi 10 août 2019, à 6h55 du matin, le financier Jeffrey Epstein, 66 ans, est retrouvé pendu dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center à New York. Cellule qu'il occupait depuis le 7 juillet, date de son arrestation pour trafic de mineurs et alors qu'il rentrait tout juste de Paris. Incarcéré, Epstein allait être tout de suite considéré comme un détenu très particulier, très sulfureux, un homme détenant des secrets pouvant impliquer une ribambelle de personnalités en vue qui aurait partagé avec lui dans la clandestinité son goût interdit pour les très jeunes filles. Troublant suicide, les circonstances précises de cette mort, qui en arrange sans doute plus d'un, n'ont toujours pas été élucidées. Epstein ne parlera plus, mais sa mort ne clôt pas pour autant le dossier judiciaire. Depuis des années, il n'a cessé d'enfler une succession de révélations, de victimes sortant de l'anonymat et d'indices. Le jour de son arrestation, les enquêteurs du FBI découvrent chez Epstein un luxueux appartement new-yorkais, des photos de jeunes filles mineures. Dans un coffre, des liasses de billets, des diamants, un passeport avec une résidence établie en Arabie Saoudite. Epstein est une célébrité new-yorkaise, un millionnaire de la jet-set, ami des célébrités, d'acteurs et d'actrices d'Hollywood, et ami aussi des puissants. Il pose sur des photos en compagnie de Bill Clinton et de Donald Trump. Le premier sera questionné par la presse sur cette amitié dangereuse. Quant à Trump, alors qu'il n'était pas encore président, il disait d'Epstein « Je connais Jeff depuis 15 ans, un type génial, c'est un plaisir de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime autant les jolies femmes que moi, il les préfère plutôt jeunes. » Les jeunes et les très jeunes filles, c'est le côté sombre de la réputation de Jeffrey Epstein. En 2008, Il a failli tomber une première fois pour incitation à la prostitution de dizaines de mineurs, certaines âgées de 14 ans seulement. Pas moins de 40 victimes qui auraient été agressées et utilisées à des fins sexuelles. À l'époque, Epstein négocie un accord de plaidé coupable, il évite le procès. Il est alors condamné à 13 mois de détention, seulement 13 mois, et qui plus est aménagé, lui permettant de se rendre à son bureau. Epstein s'en sort bien. Le procureur de New York s'interrogera sur cette mansuétude dont il a alors fait l'objet, mais il n'aura plus jamais l'opportunité de le questionner. Bonsoir Vincent Van Tinghem.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au journal 20 minutes, vous suivez cette affaire depuis le début, l'affaire Epstein, et puis le volet français évidemment. On va bien sûr aborder ce volet de l'enquête, mais il est bon tout de suite de restituer tout d'abord le personnage par qui le scandale arrive. Qui est donc ce Jeffrey Epstein qui semble avoir une influence extraordinaire autour de lui?
Ben, vous l'avez très bien présenté. Aujourd'hui, quand on parle de Jeffrey Epstein, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est millionnaire, multimillionnaire, richissime, avec de l'entre-gen. Il avait des contacts établis avec Bill Clinton, avec les puissants de la planète. Il faut savoir qu'à la base, Jeffrey Epstein, c'est un simple prof de maths qui est né donc dans les années 50, en 53, si ma mémoire est bonne, et qui s'est construit un petit peu tout seul, notamment dans la banque Bernstein, au tout début de sa carrière. Ensuite, il a été dans une agence de recouvrement qui a fait faillite, qui a eu une affaire d'escroquerie, notamment avec une pyramide de Ponzi, mais lui en est sorti indemne, et puis il a commencé à gagner son premier million, son deuxième million, son troisième million, et à faire fortune là-dedans, et à se rapprocher des puissants, comme vous le disiez, pour élargir sa toile finalement.
Élargir sa toile et peut-être avoir des appuis quelque part qui vont lui servir tout au long de sa carrière, appuis financiers, appuis politiques. Son goût pour les très jeunes filles, j'ai parlé de cette histoire de 2008 où il est une première fois accroché, et très sérieusement, son goût pour les très jeunes filles, les mineurs, disons-le, c'est un secret de Polichinelle.
Ah, c'est même, oui, c'est un secret de Polichinelle, tout le monde est au courant, et d'ailleurs... à l'époque, en 2008, bah, on n'en a pas la preuve aujourd'hui, mais on estime qu'il a usé de ses relations pour avoir justement la mansuétude de la justice. Il a bénéficié donc d'un aménagement de sa peine. 13 mois de prison, vous l'avez rappelé, il risquait 18 mois de prison seulement pour incitation à la prostitution. Juste pour sollicitation.
Est-ce qu'il aurait fait jouer déjà à l'époque ses amitiés
C'est ce qu'on dit. C'est notamment ses liens avec Donald Trump. On sait que le procureur à l'époque qui a géré cette affaire a eu des responsabilités par la suite. Alors, il est évidemment très très compliqué de faire le lien entre tout ça. Mais en tout cas, c'est un bruit qui court.
C'est un bruit qui court. Alors, ce qui apparaît, en fait, et très vite, là, ensuite, après cette histoire de 2008, c'est que finalement, Epstein pourrait être à la tête d'un réseau particulier, privé, réseau à connotation évidemment sexuelle, d'exploitation de jeunes filles, c'est ça ?
La théorie, la thèse, c'est qu'effectivement, il aurait monté, notamment sur son île des Caraïbes, une espèce de réseau dans lequel gravitent en permanence une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de jeunes filles, certaines étant même séquestrées sur place pour satisfaire le plaisir de certaines personnes, et notamment des puissants. On l'a dit, c'est l'objet même de l'émission de ce soir, c'est lié avec Jean-Luc Brunel, le patron d'agence de mannequins en France, mais d'autres noms, et non des moindres, ont été cités dans cette affaire, le prince Andrews, Bill Clinton.
Bien sûr, on va y venir parce que c'est un réseau aux ramifications internationales.
Hein. Exactement.
C'est bien ça.
Exactement.
Ça part une toile d'araignée qui part un petit peu dans tous les sens.
Exactement. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le carnet noir de Jeffrey Epstein pour s'en rendre compte, puisqu'il y a un classement par pays.
Un réseau donc qui a des ramifications un peu partout, et en premier lieu en France. Un pays que Jeffrey Epstein connaît bien, qu'il fréquente, où il a un somptueux pied-à-terre à Paris et des amis sur lesquels il a longtemps compté. En premier lieu, une vieille connaissance, un homme qui évolue dans le milieu des mannequins depuis des dizaines d'années, Jean-Luc Brunel. Le scandale Epstein, où en est le volet français? C'est l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL.
RTL 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Epstein, le financier accusé de trafic de mineurs, a été retrouvé mort dans sa cellule, mais l'enquête continue. Son carnet d'adresses, par exemple, est passé au crible. Il révèle, entre autres, une connexion française, la French Connection du dossier Epstein, comme on pourrait l'appeler. Fin juillet 2019, 15 jours avant que Jeffrey Epstein soit retrouvé pendu dans sa prison, le parquet de Paris est saisi par l'association Innocence en danger du cas du financier. L'association, qui s'occupe de la défense des enfants contre les agresseurs, notamment sexuels, invite la justice à enquêter sur un possible volet français de l'affaire Epstein. Elle se fonde sur le fait que l'homme d'affaires américain a ses habitudes en France. Il y séjourne fréquemment. Il possède même un appartement dans les beaux quartiers de la capitale, une adresse huppée, avenue Foch, tout près des Champs-Élysées. Le calcul est simple. Si Epstein a sévi aux États-Unis, pourquoi n'aurait-il pas fait de même en France ? En 2015, un site consacré aux célébrités avait publié les pages d'un répertoire téléphonique de l'intéressé. Sous l'intitulé « Massage Paris », une trentaine de numéros téléphoniques en France accolés à des prénoms féminins. Un nom, celui du français Jean-Luc Brunel, une personnalité dans l'univers des agences de mannequins et depuis longtemps cité dans le sillage de Jeffrey Epstein. Les deux hommes se connaissent depuis le milieu des années 90. À cette époque, Brunel était encore le patron de l'agence Karine Models. Un homme toujours bronzé, menant grand train de vie au volant de voitures de luxe, racontant volontiers avoir repéré Sharon Stone à ses débuts et d'avoir fait d'Estelle Lefébure ou Christy Turlington des top modèles. En 1988, une ex-mannequin sous couvert d'anonymat a accusé dans un documentaire télé Jean-Luc Brunel de l'avoir drogué et violé. Le patron d'agence dément farouchement. Puis un livre intitulé « Top modèle, les secrets d'un sale business » le met en cause. Il est alors suggéré que Brunel s'attaque aux filles fragiles, à qui il ferait miroiter une grande carrière moyennant des faveurs sexuelles. Brunel, à nouveau sur la sellette en 2007-2008. Cette fois, il apparaît dans la première enquête Epstein. Une victime qui va bientôt être l'accusatrice générale du dossier, notamment celle du prince Andrew d'Angleterre, Virginia Giuffre, explique avoir été forcée de coucher à plusieurs reprises avec le français. Elle aurait été en quelque sorte son esclave sexuelle. Des accusations fermement démenties par l'intéressé et qui ne connaissent d'ailleurs pas de suite aux États-Unis. Jean-Luc Brunel est effectivement un proche et même un intime d'Epstein. Ses initiales, JLB, apparaissent dans le répertoire privé du financier américain. Il voyage souvent dans son avion privé qu'un journal britannique a rebaptisé le Lolita Express. Une quarantaine de trajets répertoriés. Le 7 mai 2000, Brunel est ainsi du voyage à Little St. James, un caillou dans la mer des Caraïbes, dans l'archipel des îles Vierges, acheté en 1998 et transformé par Epstein en île privée. Il aurait là organisé orgies et séjours des toutes jeunes filles, une île renommée l'île du péché ou encore l'île aux pédophiles. Vincent Van Dinghem, qui est donc Jean-Luc Brunel ?
Vous l'avez dit, c'est l'ancien patron d'agence de mannequins. Donc, on a parlé de l'agence de mannequins Karine Model, également de l'agence MC2 Management. Les liens avec Jeffrey Epstein, le moment où ils se sont connus et ont commencé à graviter l'un autour de l'autre, il est assez difficile de le situer. Mais une chose est sûre.
Au milieu des années 90, à peu près.
Exactement. Et c'est surtout au début des années 2000. Qu'on s'aperçoit que les deux hommes sont très proches. Vous avez cité le plan de vol de l'avion sur lequel figure à plusieurs reprises le nom de Jean-Luc Brunel. Et puis il y a également le petit carnet que les enquêteurs ont retrouvé dans l'appartement de Jeffrey Epstein aux États-Unis.
Alors un mot là-dessus, allez-y.
Oui, un petit carnet donc sur lequel les employés de maison prenaient les messages et on a retrouvé de nombreux messages signés JLB ou Jean-Luc, notamment un message où il disait « J'ai trouvé une prof de russe pour toi, elle a 2 fois 8 ans et elle est disponible tout de suite, il n'y a pas besoin de la payer ». C'est ce genre de message que les enquêteurs ont retrouvé, qui ont établi le lien entre les deux hommes et c'est la raison pour laquelle ils pensent que Jean-Luc Brunel a pu jouer le rôle de rabatteur pour Jeffrey Epstein.
De rabatteur, c'est d'ailleurs ce que dit Virginia Giuffré, elle le présente effectivement comme un rabatteur, cet impresario français et chasseur de talents, chasseur de mannequins. Il y a une autre personne dans cette affaire qui est importante, on en dit un mot quand même, c'est Ghislaine Maxwell, c'est l'égérie d'Epstein, elle a été présentée souvent comme sa compagne, et elle connaît bien Brunel également.
Oui, on parle d'un trio... presque d'un trio maléfique, on pourrait dire, puisque cette femme, Ghislaine Maxwell, a été même présentée comme la compagne de Jeffrey Epstein. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte, en tout cas les accusations qui pèsent contre elle, sont qu'elle servait à aller chercher des jeunes filles, à les rassurer aussi un peu avec cette figure maternelle finalement. Il faut savoir que les jeunes filles présentaient toujours le même profil, c'était des filles très jeunes, souvent qui étaient un peu en rupture de lien social ou familial, qui n'allait plus à l'école, et elle leur disait « je te paye un voyage aux Caraïbes », et puis arrivé sur l'île, c'était l'enfer qui les attendait. C'est du moins, en tout cas, la thèse des enquêteurs. Et donc ce trio, on sait que Jean-Luc Brunel a passé énormément de temps sur cette île, avec Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. Il y a de nombreuses photos des années 90 qui ramènent au temps où on les voit chemise à fleurs, lunettes de soleil sur une île des Caraïbes. Mmh. Sans se douter que derrière, c'était effectivement l'horreur pour les jeunes filles.
Alors on précise bien sûr que Jean-Luc Brunel dément par la voix de son avocat toute implication dans un système Epstein à connotation sexuelle. Nous avons eu son avocate qui refuse de s'exprimer au micro, mais qui nous a bien précisé qu'effectivement il y a ces dénégations et que Jean-Luc Brunel n'est toujours pas convoqué par la justice française. Mais on va y revenir. Encore un mot, Vincent Van Dengem, il y a des intérêts français, des intérêts financiers entre Epstein et Brunel, notamment quand il monte son agence, Karine Model USA. Hein.
Exactement, au-delà du lien amical qui les relie, il y a surtout un lien financier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, durant les années 2000, Jean-Luc Brunel a besoin de fonds pour monter son agence, et c'est Jeffrey Epstein qui va venir apporter une ligne de compte, une ligne comptable pour lui permettre justement de monter ce nouveau projet. Par la suite, les liens vont bien évidemment se distendre.
Ils vont se fâcher, non ?
Ils vont se fâcher dans les années 2015-2016, Jean-Luc Brunel déposant même une plainte contre Jeffrey Epstein en disant « Aujourd'hui, tu as trop mauvaise réputation, ça nuit à mon business. » Ce qui est quand même un peu le monde à l'envers, vu que c'est Jeffrey Epstein qui a financé son activité en partie. Mais voilà, il a déposé cette plainte et la procédure n'est jamais allée à son terme pour une histoire de procédure, en fait, pour un vice de forme.
Jean-Luc Brunel a toujours nié, et c'est encore le cas aujourd'hui, toute implication dans les dérives de son ex-ami Jeffrey Epstein. Le déclenchement de l'enquête française va toutefois le placer sur la sellette, avec des accusations que là aussi il va repousser, celles d'ex-mannequins qu'il avait côtoyées alors qu'elle venait de débarquer à Paris pour une carrière de top modèle. Epstein, l'enquête française, où en est la justice? C'est ce soir dans l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure du crime consacrée ce soir à l'enquête française sur le scandale Jeffrey Epstein, ce dossier d'abus sexuels à grande échelle visant des jeunes filles très jeunes et parfois mineures. Une espèce de réseau supervisé par le financier américain qui a un écho direct en France. Le vendredi 23 août 2019, 13 jours après la mort de Jeffrey Epstein dans des circonstances troubles, on l'a retrouvé pendu dans sa cellule à New York, le procureur de Paris ouvre une enquête préliminaire pour viol sur mineur, agression sexuelle et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. Le parquet avait été alerté quelque temps auparavant par l'association de victimes Innocence en danger. Cette fois, l'enquête est ouverte. Qui plus est, le dossier ne s'appuie pas sur des supputations, mais sur du concret. Le parquet fait effectivement état de vérifications et recoupements effectués sur la base d'éléments qu'on lui a transmis. Le procureur ajoute, et le détail a son importance, que l'enquête a aussi été déclenchée après les échanges engagés avec les autorités américaines. En clair, il existe un lien, un fil tendu entre l'enquête de New York et celle décidée en France. Epstein, ainsi que son ami français, le directeur d'agence de mannequins Jean-Luc Brunel, sont pour l'instant cités par l'accusatrice principale, Virginia Giuffré. Elle dit qu'en 2001, mineure, elle s'est rendue en France, à Saint-Tropez, pour l'anniversaire du mannequin Naomi Campbell. Elle aurait alors été contrainte de pratiquer un massage érotique sur un Français désigné comme le propriétaire d'une grande chaîne d'hôtels. Une dizaine de femmes vont alors se manifester auprès du parquet de Paris pour dénoncer des faits dont elles auraient été victimes de la part de Jean-Luc Brunel. Certaines racontent des scénarios violents sous l'emprise de substances qu'on leur aurait fait boire. Les 27 août, puis les 3 et 9 septembre 2019, elles témoignent. Une Canadienne, la mannequin néo-zélandaise Zoé Brock, qui se serait enfuie pour échapper au directeur d'agence, qui aurait cherché à abuser d'elle, et puis aussi, enfin, une ex-mannequin néerlandaise, Ticia Huisman, que nous avons contacté et qui nous a raconté ce soir, pour l'heure du crime, ce qui, selon elle, s'est passé avec Jean-Luc Brunel.
In 1991, I was sent to Jean-Luc Brunel through my agency in Brussels.
En 1991, j'ai été envoyée à Jean-Luc Brunel par mon agence à Bruxelles.
Also stay in my apartment.
Il a été tout de suite très enthousiaste. Il me disait que je pourrais rester dans son appartement. J'ai trouvé que c'était étrange. J'avais 18 ans à l'époque, mais mon agent m'a dit que c'était parce qu'il m'appréciait vraiment et que seules les filles spéciales pouvaient rester chez lui. Je vivais chez lui. Je ne suis restée qu'une semaine. Je trouvais que c'était bizarre parce que Brunel était très professionnel la journée et le soir, son attitude changeait. Il faisait des remarques, me harcelait sexuellement. Il m'a dit plusieurs fois, « Toi et moi, on va coucher ensemble. Il faut que tu dormes dans mon lit. » Et après une semaine, une nuit, il m'a donné un verre. Je me souviens qu'il m'a dit l'avoir préparé spécialement pour moi et qu'après l'avoir bu, j'ai eu des vertiges, la nausée. À partir de là, ma mémoire est fragmentée. Je me souviens qu'il m'a emmené dans sa chambre, qu'il m'a poussé sur son lit et que je me répétais, je ne veux pas être ici, mais je ne pouvais pas bouger. Puis, je me rappelle qu'il était sur moi, qu'il a essayé de m'embrasser. Après, je me suis évanouie. Ensuite, je me suis réveillée et il était en train de me pénétrer. Après, je n'ai plus aucun souvenir. Je me suis réveillée le lendemain dans son lit et nue. Et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il s'était passé, j'étais tellement paniquée, effrayée, honteuse, que j'ai pris mes affaires et j'ai couru jusqu'à la gare du Nord.
Ticia Huisman, qui aura mis du temps à porter plainte, le déclencheur a bien sûr été l'enquête du parquet de Paris.
It was because of me too in 2017 that I realized that my story with Brunel had
C'est avec le mouvement MeToo en 2017 que j'ai réalisé que mon histoire avec Brunel était aussi une histoire d'abus de pouvoir. Donc j'ai fait des recherches sur Brunel et j'ai découvert qu'il était l'un des complices ou recruteurs, je ne sais pas trop, de Jeffrey Epstein.
Epstein was arrested. I felt really like okay if
Donc l'année dernière, quand Epstein a été arrêté, je me suis dit que c'était le moment de parler. J'ai donné des interviews, je suis allée à la police pour le dénoncer. Je savais que les faits étaient prescrits parce que c'était il y a 28 ans et qu'en France, la prescription pour les viols est de 20 ans. Mais mon avocate m'a dit que mon témoignage pouvait aider certaines victimes à parler. Et après cela, plusieurs femmes ont effectivement décidé de parler. Mon avocate m'a dit que 12 victimes de Jean-Luc Brunel s'étaient rendues à la police. Mais tous les faits sont prescrits.
Voilà, Vincent Vantinghem, vous avez entendu ce témoignage de Ticia Huisman. Les faits sont prescrits. Vous êtes notre invité ce soir dans l'heure du crime. Et je rappelle que vous êtes journaliste au journal 20 minutes et que vous suivez de près cette affaire. Il y a donc ce témoignage, celui de Ticia Huisman. Est-ce que tous les autres vont dans le même sens sur les faits eux-mêmes, le déroulé des faits ?
C'est toujours à peu près la même chose que les différentes plaignantes racontent aux enquêteurs, c'est-à-dire des soirées, pour la plupart, dans les appartements de Jean-Luc Brunel, où elles auraient été obligées ou contraintes de boire quelque chose, et puis ensuite, des faits se seraient produits. En tout cas, c'est ce qu'elles racontent. Elles disent toutes, j'étais dans une situation de fragilité, ils m'ont fait miroiter une belle carrière, une carrière de mannequin. Et puis, pour commencer, comme j'arrivais de l'étranger, ils m'ont dit « mais tu vas dormir chez moi quelques temps, on va voir, on va s'arranger ». Et c'est toujours à peu près le même système qui est décrit.
Un scénario identique. Alors, il y a trois femmes qui se sont dévoilées devant la police, hein, qui ont déposé d'ailleurs des plaintes auprès du parquet de Paris, en sachant pertinemment que les faits étaient prescrits. Il y a d'autres plaintes en cours ?
Alors, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que aujourd'hui, on a une dizaine de témoignages, de signalements, de plaignantes qui se sont manifestées. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les faits semblent prescrits pour l'essentiel. En parallèle de ça, il y a une autre plainte qui a été déposée pour laquelle les faits ne sont pas prescrits. Du moins, c'est ce que les enquêteurs pensent pour l'instant, mais il ne s'agit pas d'une plainte pour agression sexuelle ou viol, mais pour harcèlement sexuel.
Harcèlement sexuel. Ouais,
elle émane d'une babysitter qui s'est retrouvée à faire une garde d'enfants un été, je crois que c'est en 2015 ou 2016, pour la famille de Jean-Luc Brunel. Et au cours de ce séjour, elle aurait été victime de harcèlement de la part de Jean-Luc Brunel. Et pour l'instant, c'est, semble-t-il, la seule plainte pour laquelle les faits ne sont pas prescrits. Elle est prise au sérieux par les enquêteurs, à tel point que cette jeune fille qui a dénoncé les faits doit être bientôt l'objet d'une expertise psychologique et psychiatrique, comme il est d'usage en fait en matière de violence sexuelle, pour savoir justement comment elle a perçu les choses. Est-ce qu'elle raconte vraiment la vérité ? Enfin voilà, l'enquête classique.
Reste donc à savoir quelle suite sera donnée à ces témoignages tardifs et qui tombent sous le coup parfois de la prescription, ainsi qu'aux éléments qui pourraient être fournis par les autorités américaines. Le nom de Jean-Luc Brunel est cité à plusieurs reprises dans cette enquête américaine qui, à la mort d'Epstein, faisait déjà 2024 pages. Les investigations vont donc se poursuivre. Le sort de Jean-Luc Brunel demeurant suspendu à une éventuelle convocation judiciaire. Le dossier Epstein, un scandale sexuel, les mystères du volet français, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir, dans l'heure du crime, le volet français de l'affaire Epstein, dès l'été 2019 et aussitôt après la mort mystérieuse du financier américain accusé de scandale sexuel, la France a ouvert sa propre enquête. Le nom de Jean-Luc Brunel, prononcé à plusieurs reprises par des plaignantes, des ex-mannequins à qui il aurait imposé des relations sexuelles, ce nom-là, évidemment, intéresse au plus haut point les enquêteurs. Virginia Giuffré, l'accusatrice américaine, présente le français comme, je cite, « le principal fournisseur de filles étrangères pour Epstein, notamment d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud ». Le 17 septembre 2019, les policiers français procèdent à une perquisition au siège de l'ex-agence de mannequins Karine Models, longtemps dirigée par Brunel. La maison, dans le 8e arrondissement de la capitale, a depuis longtemps changé de main. La nouvelle dirigeante de l'agence, Ruth Malka, a connu Brunel, mais n'est plus du tout en contact avec lui. Le lundi 23 septembre, les policiers se rendent cette fois dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, 800 mètres carrés, dans un immeuble de l'avenue Foch. La perquisition démarre à 15h et va s'achever à 3h du matin. Tout tourne autour des liens étroits tissés entre Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel. En cette fin des années 90, Brunel est alors installé entre Miami et New York. Il est un hôte habituel de la luxueuse résidence d'Epstein à Palm Beach. Le français y faisait même la cuisine, témoignera le majordome. Les enquêteurs américains vont retrouver toute une série de messages laissés par le français à son ami américain. Par exemple, parfois codé, comme celui-ci quand il propose à Epstein une prof pour lui apprendre à parler russe. Elle a 2x8 ans, n'est pas blonde, les leçons sont gratuites. Vraies leçons de russe, rien de moins sûr, le FBI croit plutôt à la disponibilité d'une fille de 16 ans. En 2016, Jean-Luc Brunel a failli témoigner une première fois dans l'enquête américaine. Il avait accepté de raconter tout ce qu'il savait au procureur américain enquêtant sur Epstein. Mais Il s'était ravisé au dernier moment. Il s'était excusé en indiquant qu'il avait dû prendre un avion en urgence pour partir à l'étranger. Impossible de savoir si cette convocation a été réitérée par la justice américaine, le parquet de New York se refusant à tout commentaire sur le sujet. Vincent Vatinghem, notre invité ce soir dans l'heure du crime, des perquisitions, des vérifications, ça va être évidemment le travail des enquêteurs français. Perquisition autour du personnage de Jean-Luc Brunel. Parlez un mot quand même sur la perquisition au domicile parisien de Epstein. Perquisition assez mystérieuse. On va trouver des indices, des éléments ou rien du tout?
Alors, il y a très peu de choses ont filtré sur cette perquisition. On sait que les enquêteurs ont passé beaucoup de temps, vous l'avez rappelé, de 15h à 3h du matin, tout simplement parce que le logement de Jeffrey Epstein, on l'a dit, c'est un appartement luxueux de l'avenue Foch, qui comporte une grande salle de massage, puisque c'est le point de cette affaire, c'est que Jeffrey Epstein était très friand de massage, et dans chacune de ses résidences, il y avait une salle de massage. On sait que les enquêteurs ont trouvé quelques éléments qui viennent s'ajouter au volumineux dossier qui est constitué de l'autre côté de l'Atlantique. Ici en France, donc, il y a également eu des perquisitions et des investigations menées sur Jean-Luc Brunel, et tout ça a été nimbé d'une forme de mystère, puisque pendant très longtemps on s'est dit, voilà, Jean-Luc Brunel, il ne veut pas répondre, il fuit. Il y a eu la rumeur selon laquelle il était au Brésil, puis chez un ami en Thaïlande, puis à Paris, et en fait il a fallu attendre que son avocate nous dise, écoutez, pour l'instant il n'est accusé de rien officiellement, et il se tient à la disposition de la justice.
À la disposition de la justice. On a toutefois le sentiment, là, on est au tout début de cette enquête préliminaire. Il faut le rappeler, un petit point juridique, mais une enquête préliminaire, il n'y a pas de juge, hein, c'est sous l'autorité du procureur de la République, et c'est une enquête qui avait été confiée ici à un office de police judiciaire qui est chargé de ce travail d'enquête. On a le sentiment tout de même, Vincent Vatinghem, que les choses progressent. L'enquête part assez vite d'ailleurs. Hein.
L'enquête part assez vite, très rapidement il y a des signalements qui sont effectués. Les enquêteurs de l'OCRVP, donc le service dont vous venez de parler, recueille les témoignages. Il y a des investigations, des perquisitions. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, on est à un petit peu plus d'un an, c'est mais pourquoi Jean-Luc Brunel n'a-t-il pas été auditionné ou entendu? Et vous parliez d'un petit point de droit à faire. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être signaler, mentionner. C'est tout simplement que si les enquêteurs débutent aujourd'hui une garde à vue, c'est autant de cartouches en moins pour l'avenir si jamais ils viennent à trouver des charges contre
eux. Tout à fait. Alors on explique là, on s'arrête une seconde aussi. Garde à vue 48 heures. Hein.
Exactement.
Vous m'arrêtez si je me trompe, mais garde à vue 48 heures. Et effectivement, c'est un quota fixe. Et dès lors qu'on puise dans ce réservoir, on va épuiser des heures de garde à vue, ce qui peut-être ne permettrait pas d'interroger Brunel dans des conditions adéquates. Hein. C'est bien ça.
Exactement. Pour l'instant, le schéma des enquêteurs, c'est de dire on a beaucoup de témoignages, mais les faits sont prescrits. Et donc, on va peut-être pas le convoquer tout de suite parce que on n'a pas grand-chose à lui reprocher au sens strict de la prescription, j'entends bien. On l'a rappelé tout à l'heure, Jean-Luc Brunel est présumé innocent. Il y a eu beaucoup d'accusations qui émanent d'anciennes mannequins contre lui. Mais pour l'instant, les enquêteurs se disent on n'a peut-être pas assez de choses pour le convoquer en garde à vue.
Alors il s'est effectivement un petit peu évaporé, Brunel, bien qu'il ne soit pas en fuite et qu'il ne l'ait sans doute jamais été, contrairement à ce qui a pu être dit à une époque. Est-ce que tout de même on le voit? Est-ce qu'il s'est manifesté?
Alors la dernière apparition publique de Jean-Luc Brunel, elle remonte au 5 juillet 2019. Et c'est une date qui a son importance, vous allez le voir, puisque c'est le lendemain que Jeffrey Epstein est arrêté sur le tarmac de l'aéroport dans le New Jersey. Et la veille, au soir, Jean-Luc Brunel est à une soirée du Paris Country Club, une soirée blanche où tout le monde arrive vêtu de blanc, une soirée où on boit du champagne rosé, où il y a des grands barbecues et où la table est à 1 300 €. Voilà, une soirée mondaine à laquelle Jean-Luc Brunel avait l'habitude de participer. Ce soir-là, il est pris en photo, tout sourire, il fait des selfies avec certaines personnes, on le voit sur les réseaux sociaux. Ce sont les dernières photos de Jean-Luc Brunel.
Brunel va ensuite demeurer invisible au point de susciter des fantasmes. Il n'est pas recherché, mais dit-on, il se cacherait en Amérique du Sud, pourrait être hébergé au Brésil, où il a souvent voyagé. Son avocate, maître Corinne Dreyfus-Schmidt, tordra systématiquement le cou aux rumeurs en précisant que son client est à la disposition de la justice française si celle-ci veut bien l'entendre. Affaire Epstein, le volet français. L'enquête pourra-t-elle aboutir? C'est ce soir, le dossier de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Epstein et surtout son volet français, perquisition, audition. Les investigations ont démarré rapidement, le dossier s'étoffe, le nom du français Jean-Luc Brunel, ami d'Epstein, est souvent cité, puis l'enquête se fait à peu plus discrète. Les semaines défilent et le dossier Epstein volet France n'évolue plus. Au total, 4 plaintes ont été déposées. 3 sont prescrites car les faits se sont déroulés dans les années 90. Des faits trop anciens, la prescription pour le viol étant de 10 ans si la victime est majeure, 20 s'il s'agit d'une mineure. Une 4e plainte a peut-être davantage de prospérer. Elle a été déposée par une Française d'une 20aine d'années pour harcèlement sexuel contre Jean-Luc Brunel, l'ami d'Epstein. Ces faits-là remontent à 2015 et ne sont donc pas prescrits. En dépit de l'intérêt qu'il suscite et des dénonciations dont il est l'objet, Jean-Luc Brunel n'est pas convoqué. Les enquêteurs ne disposeraient pas d'éléments suffisamment étayés pour qu'un interrogatoire porte ses fruits. Son avocate, Maître Dreyfus Schmidt, certifie que son client n'a aucune envie de se cacher. Brunel est effectivement à Paris. Il séjourne à une adresse connue, à l'ouest de la capitale. À 74 ans, il serait choqué par ses mises en cause et répète qu'il est parfaitement innocent des faits qui lui sont reprochés. Vincent Vatighem, grand reporter au journal 20 minutes, est notre invité ce soir dans l'heure du crime. Vous suivez l'affaire depuis le début. On a l'impression que là, il y a un stop. Où en est l'enquête aujourd'hui?
Eh bien, un an après, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de signalements. On a eu le sentiment, notamment du côté des enquêteurs, d'avoir découvert le système, le mode opératoire. Mais le problème qui se pose, c'est que tous ces faits remontent aux années 90 et aujourd'hui, ce sont des faits prescrits. On l'a dit aussi tout à l'heure.
À l'exception de la plainte que vous avez évoquée.
Voilà, la plainte qu'on a évoquée tout à l'heure, à savoir celle d'une ancienne babysitter qui, a priori, elle ne serait pas prescrite et qui fait l'objet de longues investigations. Au-delà de ça, le calcul des jeunes femmes qui ont témoigné et de leur avocate, c'est de dire on a lancé un appel à témoignage, on va recueillir la parole et un jour ou l'autre, on aura une parole qui nous permettra et qui permettra aux enquêteurs d'aller plus loin dans cette affaire.
Et on rappelle effectivement que c'est une enquête préliminaire et qu'il n'y a pas de durée limite pour une enquête préliminaire qui peut durer des mois, voire des années. Un immobilisme qui rend perplexe les victimes qui ont déposé plainte. Ticia Huisman, qui s'exprime ce soir dans l'heure du crime, nous a confié son scepticisme sur la suite du calendrier judiciaire.
Yeah, I'm really disappointed in the French justice because
je suis vraiment déçue par la justice française parce qu'évidemment, je sais qu'il a déménagé à New York en 94. Donc je me doute que beaucoup d'affaires datent d'avant 94 et sont donc prescrites. Mais il venait toujours en France et il envoyait des filles à Epstein. J'espère qu'aux États-Unis, ils enquêtent sur Brunel, mais c'est très lent et c'est frustrant. Il a déjà fallu un an pour arrêter Ghislaine Maxwell. J'aimerais beaucoup dire que j'ai bon espoir qu'il y ait un procès, que Brunel et Ghislaine vont être jugés, vont aller en prison pour un long moment. Et vous savez, j'aimerais beaucoup dire ça, mais j'ai perdu espoir.
Bonsoir Maïra Cellier.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'association Innocence en danger, association d'ailleurs qui a attiré l'attention de ce dossier Brunel-Epstein auprès du parquet de Paris. On vient d'écouter le témoignage d'une plaignante qui n'a pas beaucoup d'espoir pour la suite des événements. Le volet français est trop long à donner ses fruits selon vous ?
Oui, tout à fait. Le volet est très long. Je sais que l'enquête se poursuit parce que nous avions écrit au procureur de la République au mois de juin dernier pour savoir où en était l'affaire, puisqu'on avait fait un signalement. On avait le droit d'écrire ce courrier. Le procureur nous a répondu très rapidement d'ailleurs. On avait peur que l'affaire soit classée sans suite. Mmh. Mais dans le courrier que nous avons reçu, il est dit que Pour le moment, aucune décision de poursuite, d'alternative aux poursuites ou de classement sans suite n'est intervenue dans ce dossier, dont les investigations continuent. Donc, j'espère, comme la personne qui a parlé tout à l'heure, comme Ticia, que effectivement l'enquête continue. Ceci étant dit, il est vrai que on aurait pu imaginer que des personnes dont les noms sont déjà connus à travers le monde aient été interrogées.
Madame Cellier, est-ce que vous espérez d'autres témoignages dans cette affaire, des jeunes femmes qui ne se seraient pas encore manifestées, qui auraient peur ou qui auraient mis ça un petit peu entre parenthèses?
Écoutez, les personnes qui pourraient se manifester, forcément leur nombre est beaucoup plus grand, à mon avis, que ce qu'il y a eu pour le moment. Mais pour qu'elles aient le courage de le faire, il faudrait encore qu'elles pensent que la justice aussi, de son côté, est en train de faire quelque chose. Oui. Je pense que les deux vont de pair. Donc si la justice montre qu'une enquête est vraiment en train de se poursuivre, comme on l'espère tous, je ne doute pas que d'autres victimes pourraient se manifester effectivement, même s'il y a le problème de la prescription en France. Prescription que je tiens à dire a été enlevée, abolie aux États-Unis dans cette affaire.
Tout à fait. Vous craignez, parlons franchement, Omaïra Cellier, vous craignez que la justice française ne soit pas assez percutante dans ce dossier ?
Écoutez, pour pouvoir arriver à trouver une vérité quelconque dans une affaire, il faut qu'il y ait une réelle volonté. Alors, je ne mets pas en cause la volonté des enquêteurs aujourd'hui en France, mais je ne sais pas dans quelle mesure cette affaire intéresse vraiment les autorités françaises, étant donné que, effectivement, on nous dit qu'il y a prescription, qu'il n'y a rien à faire, etc. Alors que c'est une grosse affaire qui mérite qu'on approfondisse les enquêtes et qu'on cherche les vérités. Et il y a beaucoup d'éléments dans cette affaire qui pourraient permettre des investigations approfondies. Il y en a beaucoup. En France aussi.
Merci beaucoup, Omaïra Cellier. Merci, Vincent Vantinghem. Et puis, merci à Ticia Huisman pour son témoignage courageux ce soir dans l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis, un grand merci à vous toutes et tous d'être toujours plus nombreux à partager avec nous cette heure du crime.